Bonjour de nouveau à tous, pour ceux que je n'ai pas rencontrés sur la séance court métrage, et nous voici arrivés pour une nouvelle table ronde, la troisième de cette première journée de la convention. Table ronde qui va traiter de la création d'univers, la création d'une certaine cosmogonie, pour nous dire, enfin, liée à Lovecraft, dans la littérature. Pour nous accompagner aujourd'hui, je commence par le fond, Alain Pelosato. Et tour à tour créateur et directeur de la maison d'édition Naturellement, rédacteur en chef, essayiste et romancier aussi. Il avait publié de nombreuses études sur différents aspects du cinéma fantastique, des romans. On le connaît également sous le pseudonyme de Pierre Dagon. Si on s'intéresse tout particulièrement à son travail autour de Lovecraft et du mythe de Cthulhu, on recense notamment le recueil Jean Calmé, Les vampires et Lovecraft, Laissez Lovecraft au cinéma et Laissez Lovecraft et parmi nous. Ah, ça c'est une très bonne question. Je continue ensuite avec Francis Valéry. Hop là, note qui s'enfuit. Francis Valéry, hop là. À fois romancier pour la jeunesse et pour les adultes. Il est également connu pour ses nombreux travaux bibliographiques, théoriques et critiques sur la science-fiction et l'imaginaire et sur des séries comme Bob Moran, V ou encore Frontières du Réel. Et de nouveau, vis-à-vis de Lovecraft, c'est surtout son travail autour de Lovecraft et du mythe de Cthulhu, recense donc l'essai H.P. Lovecraft, de H.P. Lovecraft à J.R. Tolkien aux éditions ActuSF, qui sont aussi sur le salon du livre. Raphaël Granier de Cassagnac, est à la fois romancier, nouvelliste et chercheur en physique des particules. Il a fait ses premières armes d'auteur dans le genre fantasy, publié pour les éditeurs comme Fleuve Noir et Nesty Beglian. Il aura prononcé celui-là. Dans le genre de la science-fiction, qui a écrit ses deux premiers romans, Eternity Incorporated et Thinking Eternity, tous deux publiés aux éditions Mnemos, qui sont aussi sur le salon du livre. Et Raphaël dirige aussi, au sein de Mnemos, la collection Ouroboros. Et donc, vis-à-vis de Cthulhu, on ressent notamment le travail de Kadat, le guide de la cité inconnue aux éditions Nemos, une nouvelle fois. Un peu dur à trouver d'ailleurs, puisqu'on avait peur de ne pas t'avoir parmi nous, parce qu'on n'arrivait plus à trouver.
Partez pas, je crois qu'il en reste trois, et c'est les derniers.
Il reste les trois derniers Kadat de Raphaël sur le salon du livre. Et c'est vrai qu'ils ont été cherchés vraiment sur les cartons. Je vais continuer avec Fabrice Gagos, qui est auteur, peintre et illustrateur spécialisé dans le fantastique et l'horreur. Il est auteur de la bande dessinée Ghouls IV, si je le prononce bien.
C'est très bien.
Oh, pas mal. Aux éditions Sombre Bizarre, il travaille actuellement sur le premier roman et nouvelle d'horreur. Il a également colorisé plusieurs bandes dessinées et comics. Chez la plupart des éditeurs français, illustré des jeux de rôle tels que Cyberpunk et un jeu de cartes sur l'univers de Sherlock Holmes. Un petit peu cette bonne ambiance que j'ai. Et enfin, on a un bel. Je vais toujours rire cette expression, belle brochette d'invité. Tristan Lhomme, qui a été rapidement, comme je lis, été pris par le virus du jeu de rôle. Et après avoir été édité dans différents magazines ses premiers scénarios, il devient collaborateur lié de Casus Belli. Il est tour à tour directeur de gamme, journaliste, correcteur, traducteur, auteur ou chef de projet, notamment nouveau pour Casus Belli ou Millennium. Et si on s'intéresse aujourd'hui à Tristan Lhomme aussi, vis-à-vis de Lovecraft, c'est vis-à-vis de l'écran de... Notamment, tu as fait l'écran de campagne, les masses de...
Nyarlathotep.
C'est pareil, c'est génial quand on est sur Lovecraft, c'est la lecture. Sous un ciel de sang, science forensique et psychologie criminelle, Cthulhu 1890, investigation au 19e siècle, et tout cela, il faut avouer, j'ai parlé des éditions Sans Détour qui sont aussi dans la partie jeu de la convention. Que dire? Et donc, on a chargé de cette lourde tâche aujourd'hui de vous poser cette question: comment construire une mythologie en littérature? Enfin, littérature, on va en sortir un petit peu, on va aussi rentrer dans tout l'aspect du jeu de rôle, aussi la comique, la bande dessinée. On avait mis littérature au départ parce qu'on était vraiment axé sur cet axe-là. Au vu du panel d'invités que nous avons aujourd'hui, c'est plus intéressant, je pense, d'aller vers tout ce qui est bande dessinée et d'autres médias, et notamment le jeu de rôle aussi, qui est assez bien représenté.
J'ai peut-être mon avis, alors.
Si je te faisais parler en premier, Francis.
Qu'est-ce que je te raconte? Comment on crée une mythologie?
Oui.
C'est pas très compliqué, hein. qu'elles soient intéressantes, c'est autre chose.
La question, ben, tu as étudié Lovecraft et J.R. Tolkien. Ce sont deux auteurs qui ont toute une cosmogonie, qui ont créé tout un univers autour de l'histoire qu'ils rencontrent. Il suffit de voir que tout comme vers Tolkien, sur le coup, vers Silmarillion, etc., qui se veut une histoire sur une centaine de livres, etc., et qui finalement, on n'en voit qu'un certain bout. Donc, je voudrais rapprocher ça aussi de Frank Herbert, qui a passé plus d'années, au final, à travailler sur l'univers de Dune et à créer cette planète et un petit peu tout cet environnement avant d'écrire vraiment l'histoire, etc. Donc, toi qui étudies justement sur le point de vue de Lovecraft, construction d'univers avant une construction scénaristique.
Tu parles d'Herbert. Oui. Tu évoques Herbert et Dune. C'est juste une planète autour de laquelle il se passe des choses, sur laquelle il se passe des choses. Ça va pas très loin. On peut parler d'Asimov aussi, qui a passé la deuxième moitié de sa vie à essayer de bidouiller, recoller les morceaux de tout ce qu'il avait écrit au cours de la première année, la première moitié, pour essayer de faire croire que tout, en fait, était une vision globale d'un univers, de Trantor, etc. C'est jamais que la même chose en un petit peu plus large. Je crois que la plupart des écrivains de science-fiction dotés d'un certain souffle ou dotés d'une ambition littéraire partent tous sur le projet de mettre en place un univers. Ça en fait pas pour autant une mythologie. Ça en fait pas pour autant non plus une cosmogonie. Je sais pas quoi te répondre parce que il y a cette idée assez répandue que Lovecraft a inventé une mythologie. En fait, Lovecraft, c'est un écrivain parmi des tas d'autres, de fantastique, de science-fiction, enfin, on appelle ça comme on veut, peu importe, qui a posé quelques idées comme quoi l'univers, au départ, il y a pas des extraterrestres en des temps immémoriaux qui ont eu telle ou telle influence et tel ou tel rôle. Mais je veux dire, des tas d'écrivains de science-fiction ont fait ça et continuent de le faire. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Il les a appelés dieux, enfin il les a considérés comme un petit peu l'équivalent dans une vision judéo-chrétienne de ce qui pourrait être une série de dieux créateurs. En fait, c'est juste des aliens hein, qui ont certainement été dotés d'une technologie à laquelle on ne comprend rien. Comme dans toute bonne science-fiction, en général, on ne comprend rien à ce qui se passe parce que justement, c'est des aliens. Donc, ils ne pensent pas comme nous, ils ne sont pas comme nous. Donc, c'est évident. Quand ils commencent à faire des trucs, ça nous semble complètement incompréhensible et ça nous semble de la magie alors que c'est juste une technologie qu'on maîtrise pas. Donc Lovecraft, pour moi, c'est j'ai beaucoup de mal avec cet écrivain. J'ai beaucoup de mal aussi à comprendre pourquoi je suis là.
Non, mais
surtout que c'est des espèces de bandes de blaireaux qui ont suivi une fois qu'il était mort et qui ont commencé à baptiser le mythe de Cthulhu. Mais il n'avait rien à foutre du mythe de Cthulhu. Lovecraft. C'est-à-dire, il a fait des histoires comme ça, dont certaines sont géniales en tant que lecteur. Ouais. Moi, j'adore lire ça. Quand j'étais gamin, ça m'éclatait et tout. Et qu'après, on explique qu'en fait, il a mis en place une mythologie. Oui, une mythologie. Alors, dans un contexte d'une nouvelle cosmogonie qui était liée à un nouveau paradigme de sa vision de l'univers, bon, attends, faut arrêter, quoi.
Ouais.
Faut arrêter un peu. Je veux dire, je crache pas dans la soupe. Hein,
non, mais pas du tout.
Mais je comprends pas. Alors, ensuite, toute l'espace que ça a occupé. Par les films, un petit peu au départ, les films de Corman et tout, surtout après par l'arrivée des jeux de rôle, alors là, franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un écrivain, je suis critique littéraire, je bosse à la fois dans le monde de la littérature et de l'art contemporain, je monte des expos, je fais de la musique, je compose des pièces électroniques et tout. Les jeux de rôle, je m'en tape, j'ai rien contre, du tout. Mais je m'en tape, ça m'intéresse pas. Et si Lovecraft est devenu le fondateur d'une mythologie exceptionnelle juste parce que des gens après ont fait du pognon en sortant des adaptations en jeu de rôle, bah grand bien face à ces gens-là, mais c'est pas mon problème du tout, tu vois. Donc je n'irai pas plus loin dans la réponse à ta question.
Tout de suite, il y a
Je suis d'accord avec toi. Quand on regarde vraiment de près l'œuvre de Lovecraft, il n'y a quasiment rien de cosmogonique ou de mythologique. Il y a quelques... Azathoth est très peu décrit, Nyarlathotep à peine plus. Il n'y a que Cthulhu, qui est pourtant une divinité assez mineure dans son panthéon, si on peut même appeler ça un panthéon, qui est décrite. C'est la seule créature qui est vraiment décrite. ce qu'il a fait, c'est juste laisser penser que derrière les trucs qui nous intriguent, donc la peur, des trucs tout cons, hein, comme la peur du noir, des sorcières, des choses comme ça, il a juste laissé entendre qu'il y avait derrière une raison, une autre raison, qui sont essentiellement ces extraterrestres qui sont venus sur la Terre avant nous et qui étaient là. Et il n'a jamais donné les clés, toutes les clés de ce truc-là. Et dans chaque nouvelle, il y a une toute petite...
c'est pour ça que
c'est... Exactement. Et c'est derrière... Il a juste laissé entendre qu'il y avait quelque chose derrière. Et ce n'est pas lui, c'est tous ses épigones. Et puis même avant le jeu de rôle et avant le cinéma, les gens qui ont continué à écrire dans le mythe de Cthulhu, qui se sont emparés du truc et qui sont allés beaucoup plus loin. Moi, quand je me suis penché vraiment sur le texte de Lovecraft, en anglais en plus, parce que les traductions n'étaient vraiment pas terribles, pour écrire Kadad, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Il y a quasiment rien du mythe de Cthulhu dans l'œuvre de Lovecraft elle-même. Elle est là, il y a quelque chose derrière, tout le monde sent qu'il y a quelque chose d'inquiétant derrière. Plein d'auteurs s'en sont emparés et sont allés plus loin pour construire une mythologie qui, même quand on la regarde de près, elle contredit même souvent le peu qu'avait dit Lovecraft du truc. En fait, il y a un endroit où il donne la généalogie des dieux. À un moment, il donne un panthéon, vraiment. C'est dans une lettre, je ne sais plus à qui, humoristique, dans laquelle il dit « Ah ouais, là, il y a Azathoth, là, il y a Nyarlathotep, et puis par un truchement, machin, à la fin, il y a Lovecraft et Carl Ashton Clark. » Donc, c'est une lettre qui est clairement humoristique et qui n'est pas du tout... Et il y a des gens qui s'en sont emparés et qui ont dit « Mais oui, Azathoth est le grand-père de Nyarlathotep, c'est sûr. » Donc, c'est Lovecraft à part... lui-même sciemment bâti, construit de façon très... Enfin, en tout cas, s'il l'a fait, il l'a bien caché, parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait vraiment bâti une cosmogonie complète. Il a juste laissé entendre, ouvert une petite porte pour laisser entendre qu'il y avait autre chose. Et alors, les gens se sont engouffrés dedans,
c'est ça aussi
plus que de raison, quoi.
C'est ça aussi.
C'est son talent.
D'écrivain.
Tu veux rebondir, Fabrice ?
Ouais, en fait, je pense que c'est justement pour ça que c'est devenu mythologie, c'est parce qu'il n'a rien fait. Simplement.
Ouais,
en fait, il a laissé les gens fantasmer sur son univers en suggérant simplement des choses. Et les gens... Mais en fait, ça a marché comme les... Enfin, faire qu'un ami, mais ça marche un peu comme les religions qui existent. C'est qu'à la base, il n'y a pas une personne qui a écrit quelque chose. Vraiment, c'est un ensemble de textes. Et puis les gens, après, font des liens. Et puis après, ils en tirent des conclusions. Voilà, c'est pareil. Donc, il a laissé de l'espace. Quand il y a d'autres écrivains qui créent une mythologie complète, par exemple... Bah, ils laissent pas l'espace parce qu'ils arrivent, bah, voilà, c'est comme ça, ça marche comme ça, machin, c'est le grand-père de trucs, et puis voilà. Et donc les gens peuvent pas tellement se l'approprier parce qu'il n'y a pas de liberté. Là, Lovecraft, en fait, il a mis quelques trucs un peu comme ça lui venait, entre guillemets. Enfin, c'était peut-être plus construit que ça, je sais pas, mais. Et les gens, après, ont pu remplir les blancs, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que justement, pour construire une mythologie, il faut pas oublier de pas la faire, en fait. C'est un piège, d'essayer de faire un tableau avec un tableau, une histoire ou. Des trucs qui sont très très plausibles et très tout expliqué, bah ça tue justement le mythe, je pense. Et je pense que c'est pour ça que Lovecraft est devenu inspirant pour pas mal, c'est qu'il a lancé des idées et que ça a permis de les reprendre et de recréer. En fait, ça c'est plus un moteur en fait qu'autre chose.
Tu donnes envie, tu laisses faire et tu vois ce qui se passe.
Voilà.
C'est ça,
voilà. Tu dis un truc, tu suggères quelque chose et tu laisses les gens faire tout. Voilà, c'est
tu insémines
le
réel avec
faire
un virus,
truc,
ils se démerdent. Quoi.
Et propager le truc eux-mêmes.
Et ça, c'est fort.
Alors, c'est d'une certaine manière, donc, c'est cette non-construction. Donc, finalement, on est arrivé sur cette table ronde avec la mauvaise question. La mauvaise. Ce que je vais dire, c'était l'idée, ça l'était pas. C'est l'interprétation de tous. Construisez une mythologie autour de cette. Tristan, donc c'était du pain béni pour le jeu de rôle, en gros, d'une certaine manière. Ah, trop bien, un truc un peu à construire, je peux un peu piocher ce que
non.
je veux.
Lovecraft est mort en 1937. Le jeu littéraire Mythe de Cthulhu avait déjà une dizaine d'années à l'époque. C'est-à-dire que lui, Clark Ashton Smith, ouais. Robert Howard et une demi-douzaine d'autres amis à lui s'échangeaient des dieux innommables et des bouquins maudits comme des Pokémon. Certains dieux passaient, notamment Tsatogwai passait beaucoup de Clark Ashton Smith à Lovecraft et retour. Et puis, après la mort de Lovecraft, est venue une phase de codification. Il y a un autre disciple qui s'appelait Auguste Derleth qui a tout bien mis d'équerre avec des dieux du feu, des dieux de la terre, des dieux de machin, des dieux de ceci, des dieux de là. Ça a duré, cette phase-là a duré une trentaine d'années jusqu'à la mort de Derleth dans les années 70. Et lorsque le jeu de rôle est arrivé, c'est-à-dire au début des années 80, le gars qui l'a écrit, Sandy Peterson, est revenu aux sources il n'a pas repris les codifications des années 50-60 et il est reparti dans les textes tout en empruntant à droite à gauche dans les disciples des années 50-60, ce qui lui paraissait intéressant. Mais il a essayé de rester proche de Lovecraft. Ceci étant, le jeu de rôle n'est pas le bout de l'histoire, parce que ça a donné une branche de, entre guillemets, du Lovecraftisme. Mais on a aujourd'hui des centaines de recueils, je ne plaisante pas, hein, vraiment des centaines de recueils de nouvelles Lovecraftiens qui s'écrivent et qui se publient. Depuis à peu près 1990, il y a eu une explosion énorme aux États-Unis de trucs qui sont pour la plupart très mauvais, invisibles, mais qui se revendiquent de Cthulhu, de Lovecraft, dans des proportions différentes selon les auteurs. Mais une fois de plus, le jeu de rôle, avec ses à peu près 1000 scénarios, je pense, de publier, sans oublier les contextes historiques, les trucs, les machins, c'est juste une petite branche de la production lovecraftienne en général.
Il y a un truc très bête aussi, je pense, parce que qui fait que les gens ont pu s'approprier l'univers, c'est que tout simplement Lovecraft, il n'avait pas d'ayant droit. Quand il est mort,
on n'a pas compris.
Il n'avait pas d'ayant droit.
Il n'avait pas d'ayant droit, c'est-à-dire qu'à sa mort, il n'y a pas eu de. Enfin, ça a tout de suite été libre de droit et tout de suite
non,
donné. Enfin, presque.
Non, 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 c'est Arkham House qui avait droit.
D'accord.
Pendant tout un temps, au début de l'appel de Cthulhu, les suppléments pour. Enfin, l'appel de Cthulhu et ses suppléments étaient publiés avec autorisation d'Arkham House sous licence, etc. Mais non, non, au contraire, Derleth a été extrêmement féroce là-dessus pendant 20 ans.
D'accord. Parce que c'est libre de. Enfin, je sais que c'est maintenant.
Et il est tombé dans le domaine public en 87. Donc depuis 87, tôt, en fait. Tout le monde et n'importe qui peut faire du Lovecraft.
Ça s'est tombé très tôt finalement dans le domaine public.
Mais c'est-à-dire que la loi a changé.
C'est le mythe.
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, aux États-Unis, quelque chose tombait dans le domaine public 26 ans après sa première publication, que l'auteur soit vivant ou pas. Mmh. Et on pouvait renouveler pour la même période à la Bibliothèque du Congrès. Donc si tu veux, ça tombait dans le domaine public. Quoi que tu fasses, tu ne pouvais pas prolonger plus de 52 ans après la parution. Mais tu pouvais être encore vivant si tu avais commencé très jeune et te faire spolier. Et ensuite, ils sont passés à la loi européenne. Nous, on était à 50 ans plus les années de guerre après la mort de l'auteur, ce qui allait beaucoup plus loin. Et je crois que maintenant, c'est 70 et les États-Unis ont pris la même convention. C'est pour ça que des choses qui étaient dans le domaine public, après, elles ne l'ont plus été. Donc effectivement, là où tu as raison, c'est que peu de temps après la mort de Lovecraft, un certain nombre de textes sont tombés dans le domaine public simplement parce que les copyrights, qui n'existent, ce concept n'existe pas en Europe, hein, les copyrights n'avaient pas été renouvelés. Donc 23 ans, 26 après parution, ça tombait dans le domaine public. Mais c'est extrêmement compliqué. Pour chaque texte, il faut. Alors ceci dit, maintenant que c'est la loi européenne, 70 plus 37, il est dans le domaine public depuis 2007, quoi qu'on fasse. Quoi.
Voilà. Et alors donc, vous allez dire quelques mots. L'œuvre de Lovecraft a quand même été à l'origine de cette mythologie, même si ce sont des gens après lui qui l'ont développée. Mais ils se sont quand même appuyés sur son œuvre. Donc elle a quand même, cette œuvre, un contenu suffisamment important et intéressant pour avoir permis de faire ça. L'œuvre de Lovecraft a enfanté une mythologie. Et ça, c'est pour ça qu'il faut la regarder et essayer de comprendre comment elle a enfanté cette mythologie. Je suis d'accord avec toi, ce mot mythologie, je me convient pas toujours très bien non plus, mais enfin, utilisons-le par commodité.
Faute de mieux.
Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a toujours interpellé dans l'œuvre de Lovecraft, c'est l'arrière-plan scientifique. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il y a toujours un arrière-plan scientifique. Lovecraft, la période de sa vie a été la période où il y a eu des grandes découvertes scientifiques. Il y a eu les deux relativités d'Einstein, en 1905 et en 1915. Il y a eu l'idée que l'espace n'était pas uniquement euclidien, mais il pouvait être, là je tombe dans des discussions un peu compliquées, il pouvait être autre, il pouvait y avoir un autre espace-temps avec d'autres formes, et ça c'est du Lovecraft tout pur. Ouais. On retrouve ça dans presque tous ces textes. Donc lui, quand on lit, lui, il a été assez malin, quelqu'un l'a dit à midi, il a été assez malin pour ne pas faire des maths et de la physique dans ses textes. Mais il s'appuie sur ses nouvelles découvertes pour rendre sa cosmogonie, c'est pas un mot qui convient non plus, mais c'est pas des extraterrestres. Les gens, les dieux de Lovecraft, c'est pas des extraterrestres, c'est des gens qui viennent d'autres mondes, qui viennent d'autres espaces. Donc, à son époque, ça n'existait pas encore au point de vue scientifique de manière aussi intense que maintenant, des multi-univers, maintenant on appelle ça les multivers, mais lui, il l'avait déjà mis dans son œuvre. Et maintenant que la théorie des cordes, avec la théorie inflationniste, enfin tout un tas de théories scientifiques actuelles, les scientifiques disent, c'est plus de la littérature, les scientifiques disent qu'il y a des multi-univers. Bon, si vous voulez, on en discutera un peu plus concrètement si ça intéresse quelqu'un, je ne veux pas approfondir là-dessus. Mais lui, Lovecraft, il l'avait déjà mis dans ses romans, dans ses nouvelles, et il avait expliqué que c'était des êtres qui venaient d'un autre univers. D'ailleurs, dans plusieurs de ses nouvelles, il parle d'angles, de géométrie, etc., parce qu'il y a des espaces non, qu'on dit non euclidiens, parce que le nôtre, il est euclidien. Hein, trois angles d'un triangle font 180 degrés, c'est une règle qui n'existe que dans notre espace à nous euclidien. Mais dans d'autres espaces, cette règle n'est pas respectée, où les deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, etc. Donc, il parle souvent d'angles étranges, etc. Ça paraît un peu maladroit, parfois, mais ça n'est pas du tout, parce qu'il a compris ça. Il a compris ça à travers, surtout, je crois, mais je n'ai pas lu ses lettres. Je ne sais pas si dans ses lettres, il parle de ces questions, mais je ne les ai pas suffisamment lues pour le dire. Mais ça transparaît bien dans son œuvre. Et donc ça, cet arrière-plan scientifique, il l'a branché volontairement sur une mythologie qui existe, enfin une double mythologie qui existe, les mythologies de l'Antiquité, il utilise beaucoup la mythologie égyptienne, aussi un peu la mythologie nordique, et puis les mythes indiens d'Amérique du Nord, et puis il utilise aussi bien qu'il soit matérialiste à fond, il utilise aussi toutes ces sombres histoires de sorcières de la religion catholique. Il l'utilise de manière différente. C'est pour ça qu'il y a les incantations, il y a les livres maudits, etc. Il y a cet héritage chrétien, mais qu'il renverse dans une œuvre qui est complètement matérialiste, qui est vraiment matérialiste à fond. Et pourtant, ces êtres qui viennent d'autres espaces, il les appelle des dieux pour cette raison-là, parce que pour lui, sur le plan du roman, sur le plan de l'écriture, c'était plus acceptable pour les lecteurs de l'époque que maintenant, par exemple. Donc voilà, je voulais évoquer cet aspect des choses.
Ce qui est donc assez étonnant, au final, puisqu'on se retrouve... en écoutant là, une certaine pure science-fiction. Oui. Des extraterrestres qui a été dit, donc qui sont arrivés là il y a des millénaires, voire plus, sur Terre, qui sont en train de dormir dans les profondeurs, qui ont certains effets qu'on ne comprend pas, parce qu'en effet, toute avancée scientifique trop haute nous paraît comme de la magie. Et pourtant, on a bien affaire à un auteur sur lequel on a l'impression de travailler que sur du pur fantastique, et où toute cette impression-là sort. Est-ce que c'est serait-ce un besoin qu'on aurait de plutôt d'aller chercher une œuvre fantastique en occultant un peu ce côté scientifique ou non, fin de question.
C'est le problème des gens qui mettent des étiquettes. Hein. Ouais, voilà. S'ils mettent des étiquettes toutes pourries, ça n'en fait pas des étiquettes intelligentes.
Lovecraft a commencé sa carrière littéraire en croyant écrire dans le prolongement d'Edgar Poe. Il a continué en croyant écrire dans le prolongement de Lord Dunsany, ouais. Des histoires qui étaient très oniriques, etc. Il a continué en écrivant des choses qui s'éloignaient de plus en plus du fantastique et qui se rapprochaient de plus en plus de science-fiction. Mais ça reste une seule œuvre, simplement trois facettes différentes, et le même bonhomme derrière. Donc on retrouve, si on prend le temps de regarder de manière un peu transversale, des thèmes qui se recoupent. Et puis il a aussi fait joujou avec certaines de ses nouvelles gothiques. On retrouve le protagoniste Pickman dans Les Contrées du Rêve. Je pense qu'on pourrait trouver d'autres exemples de coupes transversales.
C'est quelqu'un qui s'est aventuré dans un peu tous les genres. Je suis d'accord avec toi. Laissant apparaître derrière toujours cette petite soupçon qu'il pouvait y avoir des liens communs.
À son époque, il avait la chance de travailler dans un temps où les genres n'étaient pas hyper définis, hyper rigides, comme ils le sont maintenant.
La notion de genre n'existait absolument pas. Ouais. Wertels a été sous-titré de Unique Magazine, le magazine Unique, mais ne faisait pas du tout référence à ce que peut-être ils auraient pu appeler gothique ou la fantasy ou je ne sais quoi. Et dans Wertels, qui est en France à l'image de la première revue spécialisée en fantastique, c'est rempli de Noël d'Edmond Hamilton, qui est vraiment un des classiques du space opéra le plus pur. Il n'y avait pas cette distinction. il n'y avait pas de nom de toute façon pour ça. La distinction, c'était sur la thématique. Dans les pulps, ça fonctionnait sur la thématique. C'est-à-dire, il y avait des... par exemple, il y avait un pulps qui était spécialisé dans les histoires de combats entre des zeppelins et des avions à la Première Guerre mondiale. Et il y avait des histoires, ça parlait que de ça. Là, c'est hyper, hyper niche. Hein, comme, Il n'y avait pas cette notion, enfin, SF, fantastique, fantasy. De toute façon, c'est des mots qui ne veulent rien dire, ni aux États-Unis, ni en France. Ici, ce qu'on appelle heroic fantasy, fantasy, tout ça. Fait, aux États-Unis, des fois, ils parlent de fantasy, ils parlent de ce que nous, on appelle fantastique. Les trucs très clairs. Et alors, quand on entend fantasy, on pense à des histoires avec des lutins, des hobbits, des Conan, des machins. Non, ils ne parlent pas de ça. Pourtant, ils utilisent le mot fantasy. Alors après, on arrive à des délires comme il y a eu à la grande époque de Press Pocket, où pratiquement, il y avait un nouveau genre littéraire qui était créé chaque fois qu'un bouquin sortait. La Sword, la Dark, voilà, c'est complètement dément. C'est époque heureuse, époque bénie, où, où les genres littéraires n'étaient pas cloisonnés comme ils l'ont été encore récemment. Quoi. Enfin, bon, depuis, il y a un peu la thématique, le mélange des genres qui s'est développé depuis 20 ans dans la littérature française. Dieu merci. Dieu merci.
Et donc, Lovecraft aussi s'appuyait sur l'actualité de son époque et sur la réalité de l'époque. Par exemple, Les montagnes hallucinées, il a écrit ça quand on a découvert l'Antarctique. Parce qu'on ne le dit pas ça, mais c'était fabuleux pour les gens de l'époque de découvrir un nouveau continent. Et donc, il a tout de suite utilisé cette découverte pour en faire un petit roman dans lequel il a mis ses grands anciens. D'ailleurs, dans son roman, il est très scientifique. Il cite toujours de manière très précise les coordonnées des endroits où ils sont. Il y a même une dissection d'un grand ancien qui est décrite en long, en large, en travers. Et il a écrit ça, si je ne me trompe pas dans les dates, il l'a publié, mais je crois même en 1931. C'est l'année où, je ne me rappelle plus les noms, l'Américain et le Norvégien se battaient pour arriver les premiers au pôle sud. Donc il s'appuyait vraiment sur la réalité. La base de l'horreur de Lovecraft, c'est le fait qu'il s'appuyait sur une part de réel, donc ça faisait encore plus peur, parce que il y avait quand même ça avait des échos de la vie des gens, quoi.
Ceci dit, il ne faut pas croire qu'il était le seul à faire ça non plus.
Ah non, je suis bien d'accord.
C'est-à-dire ces histoires, si on lit Flatland de Noël Abbott, oui, qui est bien antérieur, ou des nouvelles comme Le brouillard du 28 octobre de Maurice Renard, ou des textes comme ça, c'est cette notion que notre univers physique a trois dimensions, au-delà de ça, il existerait d'autres dimensions, des mondes parallèles, le multivers que tu as développé. Ça, c'est au 19e, fin du 19e, début 20e, c'est dans la littérature populaire, en particulier française, que je connais bien, c'est pour ça que je peux en parler facilement. Il y en a plein, il y a plein de textes sur ça, c'est-à-dire les Gaston Palowski, Voyage en quatrième dimension, des choses. Bon, il y a plein de récits. Les écrivains, certainement à cette époque-là, il y avait moins de différence entre. Maintenant, il y a les littéraires, les scientifiques, hein, en gros. Ceux qui sont forts en maths, ceux qui sont forts en latin, enfin toutes ces conneries. Mais à l'époque, c'était pas ça. Il y avait des gens qui étaient, il y avait des gens cultivés, et les gens cultivés avaient une vaste culture générale. Et c'était des gens comme Lovecraft, c'est des gens qui étaient à l'éveil, qui lisaient, qui écoutaient plein de trucs, qui piochaient dans les revues de vulgarisation scientifique qui existaient déjà. Et tout ça, ça nourrissait un imaginaire. C'est comme ça que ça fonctionne un écrivain. C'est quelqu'un qui passe son temps à être à l'affût de tout, ça rentre, et puis à un moment on est plein, c'est comme une grosse éponge, hop, et puis il y a une espèce de matériau, et puis après le processus de création arrive et on fait quelque chose. Et forcément c'est dans le contexte, c'est là où on est, le jour où on est, les gens qu'on a vus, ce qu'on a entendu, et tous les écrivains fonctionnent comme ça, enfin tout au moins ceux qui font des choses qui sont ensuite intéressantes à lire, ce qui est le cas de Lovecraft. Donc ça c'est tout à fait vrai ce que tu dis là. Mais je veux dire, il ne faudrait pas penser qu'il y a que Lovecraft. Enfin, c'est pas ça qui fait qu'il est mieux que les autres. Parce que les autres faisaient pareil. Ceci dit, peut-être qu'ils le faisaient mieux que la plupart. Ça, c'est. Et là, on est en train un petit peu de parler SF fantastique, enfin, la différence et tout. Dans le petit bouquin que j'ai fait pour la maison d'ailleurs, chez Actu SF, j'ai voulu savoir comment Lovecraft avait été reçu en son temps. Ça me semblait intéressant, parce que tout ce qu'on a dit après, moi je veux bien, mais enfin bon, ça s'est passé comment? Quand un texte de Lovecraft est publié, qu'est-ce que les lecteurs racontaient dans le courrier des lecteurs? Quand il a commencé à avoir un tout petit peu d'intérêt pour les critiques, qu'est-ce que les critiques ont dit? Quand les écrivains universitaires ont fait des gros travaux universitaires sur ce type de littérature, est-ce qu'ils ont pris ou non Lovecraft en compte?
Et qu'est-ce qu'ils en ont dit? Mais le résultat, c'est terrible. C'est-à-dire, ce mec n'existe pas. Quand, une fois ou deux, il y a un article dans la presse pour se foutre de sa gueule, quand, de temps en temps, un universitaire prend, il dit, ça, c'est de la merde, mais carrément, hein, c'est sans intérêt. Et finalement, il y a un seul universitaire qui a longuement développé un chapitre sur Lovecraft, une partie de chapitre, et il s'est appuyé uniquement sur deux textes, Les Montagnes Hallucinées, ces textes, ils sont des œuvres plus longues et qui sont des œuvres de science-fiction moins discutables que la plupart des autres.
Dans la ligne du temps.
C'est ça, ouais. Tout à fait. Voilà, et parce que c'est des textes qui sont pas dans Wertels, hein, qui sont parus dans les pubs de science-fiction, et c'est des textes qui ont toute cette dimension que tu évoques, à juste titre, et c'est cela qu'on trouvait grâce aux yeux de ses contemporains, enfin, d'un de ses contemporains. Et ça aussi, c'est pas neutre. Que ça soit ces textes-là qui a retenu ma attention, c'est pas neutre. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces textes-là. Tu vois, c'est... Je parle trop.
Non.
Je ne fais rien.
Une réaction à... On est tous d'accord.
Presque. Ouais, je crois. Hein. Non, mais tu disais, il a fait plein de choses que d'autres ont fait. Pour moi, le truc qui le démarque des autres, c'est ce qu'on disait vraiment au début. C'est-à-dire que, genre, le Necronomicon apparaît quasiment jamais, mais en même temps, il est mentionné dans presque toutes les œuvres. J'exagère un peu. Hein. Mais c'est de juste, c'est des toutes petites touches, ouais. C'est de dire voilà, hop, juste une fois le Necronomicon dans un texte immense, voilà, et puis une autre fois là, dans des textes qui, comme tu disais, ont rien à voir en fait, qui vont de la fantasy à la science-fiction, si je me permets, je déteste aussi les gens qui vont de ce qu'on appelle aujourd'hui la fantasy jusqu'à la science-fiction, voilà, c'est de laisser penser qu'il y a quelque chose derrière qui explique tout.
Alors, après,
c'est. C'est ça qui a fait que derrière, c'est ça qui le démarque des autres, qui fait que le mythe de Cthulhu existe entre guillemets aujourd'hui. Quoi.
Il y a des sectes.
Et puis alors, il y a des sectes et tout ça. Il disait aussi, il a développé la peur de la science. Il a développé, il disait, on peut reprendre des textes, je ne sais pas là, mais si un jour l'humanité est envahie par des découvertes scientifiques infinies, ouais, comme cette Rolex, ça va être une catastrophe horrible, ça va être l'enfer sur Terre, etc.
Dans la mime du temps.
Il y a aussi ces histoires d'incantations, de démonologie, là, c'est toujours par rapport au fait qu'il faut faire attention de ne pas découvrir des choses dangereuses. Ouais. Ça plaît aux gens. Hein.
Voilà, il faut que je te rassure, le multivers, ce n'est pas du tout sûr, scientifiquement parlant.
Non, oui,
c'est une hypothèse.
Il pourrait y en avoir, et s'il y en a, on n'arrivera pas à le démontrer.
Ouais, voilà. C'est pas démontré, c'est mathématique.
Mais on en parle. Mais on en parle.
C'est mathématique, hein, quand même.
Hein. Tu as des bulles de campagne, tu as un univers, tu as une bulle, tu vois, ça marche, ouais, ça marche, ça pète, ça se développe. C'est assez excitant.
Il n'y a pas seulement dans la théorie des cordes, hein, il y a plusieurs.
Ah, bah, la théorie des cordes, c'est pareil, ça peut ne pas exister du tout, mais là, on va diverger beaucoup aussi.
Alors, donc. Mais par exemple, dans celui qui chute dans les ténèbres, il y a beaucoup de mécanique quantique, de machin comme ça. Hein. Ouais. Pourquoi les crabes, là, comment ça s'appelle, ceux du dehors, on ne peut pas les photographier? C'est génial comme truc. Ouais. Alors, il aurait pu se contenter de dire, on les photographie, mais ils n'apparaissent pas sur la photo. Mais il explique pourquoi. Il dit parce que, je ne sais plus comment il le dit, mais l'électron n'a pas les mêmes phases. Il ne parlait pas de spin ou je ne sais pas quoi, mais il était vraiment branché scientifique. C'est marrant parce que personne n'en parle de ça, du volet scientifique de Lovecraft qui est étouffé par sa démonologie, sa mythologie, puisqu'il s'appuie quand même pas mal sur les mythologies anciennes.
Ça sert à donner du crédit au peu d'éléments mythologiques.
Oui, c'est vrai.
Sa première vocation d'adolescence, c'était l'astronomie.
Ouais. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. Ouais. Et je vois par exemple Marvel, ils font la même chose maintenant avec Thor. Là, je ne sais pas si vous avez vu les films, mais bon. Ils sont dans une autre dimension, c'est exactement la même chose.
Ils vont même plus loin que ça, Marvel.
C'était pas comme ça dans la mythologie nordique. Hein.
Ils vont même plus loin que ça, Marvel, parce que comme il y a justement pour parler de multivers et des trucs comme ça, eux, justement, leur mythologie, c'est qu'ils sont aperçus qu'il y a des adaptations.
Je ne parle pas fort.
Il y a des adaptations, soit par un autre scénariste, soit en film, soit une BD qui continue, soit des jeux vidéo, etc., etc. Et à chaque fois, il y a des variantes, parce que les personnages vont changer. Suivant qui les écrit en fait. Et donc eux, ils ont décidé, pour rendre tout ça cohérent, de dire que c'était des univers différents. Ils leur ont donné des numéros à chacun.
Ah oui.
Et donc c'est tout cohérent grâce à ça en fait. Et de temps en temps, ils se permettent même de faire venir un super-héros d'un univers dans un des autres univers, parce que ça les intéresse scénaristiquement. Ah, ouais. Et donc voilà, donc ils sont allés même plus loin que ça. effectivement sur.
Et ça, c'est tout à fait Lovecraft, hein, ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, il reprend des personnages dans différentes nouvelles où il donne des noms, les mêmes noms que certains personnages à d'autres personnages dans d'autres nouvelles. Si on lit bien,
c'est pas la
on
même
peut
version.
Pas tout voir, hein, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même une relation. Je sais pas comment tu as dit tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Hein.
Mais oui, créer différentes versions. Et c'est ça en fait, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur les religions et les trucs comme ça, où toutes les mythologies, même on prend la mythologie nordique, décrire réellement un des dieux nordiques, c'est pas tellement possible parce qu'il y a plusieurs versions en fait, suivant les textes.
Dans toutes les mythologies.
Donc c'est ça qui est en fait, je pense que pour vraiment créer une mythologie. Hop, je reviens sur le sujet. Pour vraiment créer une mythologie, il faut justement laisser le flou, comme on disait tout à l'heure, mais aussi. Créer le doute, en fait. Plus que le flou, c'est créer le doute sur qui est réellement. Parce que finalement, techniquement, s'il y a des dieux qui existent, on n'est pas censé pouvoir ni les décrire, ni les rencontrer, par principe, en fait. À moins qu'ils interviennent, ils interviennent bien comme ils veulent, en fait. Donc, pour créer une mythologie, je pense que c'est surtout, plutôt que de la créer, en fait, plutôt que de faire l'erreur de vouloir la créer complètement, il faut faire des différentes versions de trucs, exactement comme tu disais tout à l'heure, faire réapparaître dans différentes nouvelles ou différents romans ou même différents médias, faire réapparaître des pointes de choses qui rappellent le truc pour voir qu'il y a quelque chose derrière, mais sans jamais le dire en fait complètement. Je pense que c'est ça qui est.
Puis après, tout est possible. Hein. Je pense que Tolkien, il a quand même beaucoup plus construit sa mythologie. Oui, il a complètement construit sa mythologie.
Il a fermé. C'était
il a fait l'inverse de ce qu'a fait Lovecraft. Et il en a, à part le Silmarillion, quoi, mais lui, là derrière, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait ses bibles derrière.
L'avantage de Tolkien, c'est qu'on a le détail du processus, c'est très documenté, ouais. Qu'on sait qu'en 1917, c'était pas la même chose qu'en 1923, ouais. Et que ça a évolué encore jusqu'à.
Donc il s'est fait un cadre. Il s'est fait un cadre pour écrire autre chose derrière. Donc il a d'abord fait la mythologie, puis après, il a employé cette mythologie dans une histoire aventureuse, romanesque.
C'était beaucoup plus dans le pointillisme. Tolkien était plus dans la grande fresque, on va dire.
Tout à fait. En fait, tout est possible. On peut aussi, nous, chez Mnemos, dans la collection Ourobor, on a publié un tout petit bouquin qui est une cosmogonie, et c'est tout. On a un auteur qui nous a fait une petite cosmogonie, elle n'est pas longue, c'est 100 000 signes, c'est un tout petit roman, quoi. Ça ne raconte qu'une cosmogonie, voilà, ça s'arrête un peu là. C'est sympa à lire, hein, je vous le recommande. Mais voilà, et c'est fermé. Comme ce n'est pas réemployé pour raconter des grandes aventures... Tout est possible, je pense, vraiment, pour revenir sur le débat. Tout est possible. Je pense qu'on a bien compris la force de Lovecraft par rapport à cette histoire de mythe. Pourquoi le truc a pris une ampleur énorme derrière, bien au-delà de ce qu'il avait lui posé. Mais on peut vraiment... on peut écrire une cosmogonie complète, quoi. Et n'en faire rien d'autre, c'est possible.
Il y a un auteur anglais, Graham Masterton, qui s'est affiché ouvertement avec deux romans ou trois... comme disciple de Lovecraft, puisqu'il reprend certains thèmes de Lovecraft, mais tous ces thèmes de romans d'horreur, c'est toujours basé sur quelque chose qui vient d'ailleurs, et puis qui est vachement méchant, et puis qui est très, très... chez lui, c'est terrible. Hein, il commence toujours ses romans par une scène d'horreur absolue. Et donc, lui aussi, c'est pas du tout le mythe de Cthulhu, alors je crois qu'il a fait deux romans, une histoire de pluie, là, d'eau infectée, et puis un autre, je ne me rappelle plus les titres. Mais il a aussi été le prolongateur de Lovecraft.
Il y a une notion intéressante, c'est qu'on parle de mythologie, comme si une mythologie, finalement, c'était un sac avec des mythes, un ensemble de mythes. Et ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter, à la notion spécifique de mythe, et en particulier de mythe moderne. Et on s'aperçoit que toute cette littérature, alors qu'aujourd'hui on appelle littérature de l'imaginaire, enfin, le nom qu'on lui donne, hein, tout ce qui est SF, fantastique, fantasy, etc., c'est une formidable machine à fabriquer des mythes. Hein. L'ufologie, ouais. Clairement, ou la cryptozoologie, par exemple. Mm-hmm. Et quand on voit comment ça fonctionne, alors c'est le procédé Lovecraftien, c'est que ça s'appuie complètement sur le réel. Par exemple, la cryptozoologie, peut-être... C'est une espèce de science, une zoologie qui concernerait des animaux dont on n'est pas trop sûr qu'ils existent ou pas. L'étonnant de ces théories dit si, ils existent, on les a juste pas encore étudiés scientifiquement, on les a juste aperçus vite fait, on a pris une photo floue, on ne sait pas trop. Enfin bon, alors ça s'appuie, on vous explique. Bah si, parce que des animaux de très grande taille, les gens disent, ouais, attends, il y aurait des dinosaures en Afrique, ça se saurait. Ben non. Parce que l'okapi, par exemple, c'est vachement grand, l'okapi, c'est une petite girafe et tout, on l'a découvert qu'au début du siècle, et puis. dernier, 20e. Puis il n'y a pas longtemps encore, on a découvert, je crois, un requin qu'on ne connaissait pas, qui fait je ne sais pas combien de mètres de long. Donc, des animaux de très grande taille, bien qu'on sache tout sur tout et sur tout, toute notre planète, il y en a encore plein, certainement, à découvrir. Et après, les gens disent, puis de toute façon, il y a un truc, c'est l'absence de preuves n'est en rien la preuve de l'absence. On dit, par exemple, le sélacanthe, ce poisson qu'on a redécouvert juste avant-guerre, en 38 ou 39, on pensait qu'il n'y en avait plus depuis 40 millions d'années, juste parce qu'on n'avait pas trouvé de fossiles. Les plus anciens avaient 40 millions d'années. Ben, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de fossiles, absence de preuves, que ça prouverait l'absence de ce poisson qui existe toujours. Il y en a deux communautés au moins qui existent, aux Comores, etc. Donc cette histoire de un mythe moderne, c'est super parce que c'est des espèces de constructions intellectuelles qui partent de la science, qui partent du réel, qui partent avec des arguments qui tiennent parfaitement la route et qui sont repris en fait par les sciences humaines, qui en font complètement autre chose. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui pensent qu'il y a des lacs. Alors, parlons pas du Loch Ness, mais il y a des lacs un peu partout en Amérique et tout, il y a des monstres. Alors, est-ce qu'ils existent, ces monstres? Alors, on les a jamais vus, on les a jamais pris en photo. Par contre, enfin, si, des tas de gens les ont vus, mais ils n'avaient pas l'appareil photo ce jour-là. Et on se dit, bon, finalement, ça n'existe pas. Alors, peut-être que ça n'existe pas physiquement, mais ça existe. À partir du moment où autant de gens croient que ça existe, ça a cette forme d'existence, mais qui est ressortie aux sciences humaines, qui est ressortie pas aux sciences de physique, et, tu vois. Et dans Lovecraft, il y a des trucs comme ça. Gère Cthulhu, est-ce qu'il existe Cthulhu? On l'a jamais vu, c'est pas parce qu'on l'a jamais vu qu'il n'existe pas.
J'ai pas essayé de le croiser.
Et on peut parfaitement bâtir, avec tous les emprunts qui sont faits au Wendigo, lui spécialement, mais au mythe indien, tout ça. Puis avec en plus cette espèce d'arnaque fondamentale qu'il y a dans l'œuvre de Lovecraft, qui consiste à nous faire croire que les États-Unis ont une histoire comme nous. Alors, aux États-Unis, quand tu lis Lovecraft, tu dis, putain, mais Arkham, c'est aussi vieux que les châteaux en Écosse et tout. Mais c'est pipeau, tout ça. C'est génial de réussir à nous faire croire qu'il y a tout ça. Donc, il s'appuie sur plein de choses, sur des mythologies à droite à gauche des Indiens et tout, construit son bordel et tout. Puis finalement, au bout du compte, après, il y a Stephen King qui fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'on finit par croire que les États-Unis ont cette espèce de grande tradition littéraire avec des fantômes comme nous et tout. Que dalle.
Ils
n'ont rien de tout ça, en fait. Et il y a ça dans Lovecraft, il y a cette dimension-là de doter un pays d'un passé beaucoup plus long que son passé réel et tout. Et ça, c'est une mythologie aussi. C'est la mythologie fondamentale du fantastique contemporain américain, pour moi, de mon point de vue. Et Lovecraft est le mec qui a mis ça en route, avec quelques autres. Et puis Stephen King est le mec qui a engrangé les dollars en jouant là-dessus, ça c'est clair. Et c'est ça, pour moi la vraie mythologie qu'il pourrait y avoir dans Lovecraft, c'est ça. C'est le fait d'avoir imposé cette vision littéraire, je ne sais pas comment l'appeler, d'un pays qui n'a rien à voir avec le réel. C'est plus ça.
C'est parce qu'il n'aimait pas les États-Unis. Il aurait voulu que ce soit l'Angleterre.
Il a inventé son
États-Unis. Justement, il a sorti le fantastique américain qui existait déjà un petit peu au 19e siècle de l'ombre de l'Angleterre.
Il a fait
quelque chose de complètement différent de ce que faisaient les Anglais qui, eux, étaient restés sur les châteaux en Écosse avec des fantômes plutôt bien élevés. Plutôt que des champignons tentaculaires qui viennent vous bouffer le cerveau.
Mais ça, je pense que c'est aussi une des raisons du succès du mythe de Cthulhu. C'est que ses premiers lecteurs, c'était bien des Américains. Donc, il a rapproché l'horreur de ses premiers lecteurs. Vous savez, marcher ici, c'est plus compliqué. Mais...
Non, mais c'est
vrai. En fait, c'est une vraie question universel. Aussi. C'est pourquoi est-ce que ça a si bien marché en France alors que ça a mis 30 ans à démarrer aux États-Unis
Il a eu des bons promoteurs en France.
On nous a dit que c'était bien.
une poignée d'intello qui tenait toute la presse et tous les médias parisiens à l'époque et qui l'ont posé comme un génie. C'est totalement artificiel. L'évaluation, la mise en place du mythe de Lovecraft, carrément, on pourrait presque dire en France dans les années 50-60, c'est 10 personnes à Paris, influents, et qui est même gens comme Cocteau. C'est délirant, quand on lit. Dans mon bouquin, j'ai fait pareil. Je me suis tapé toutes les chroniques, les dossiers de presse qu'ils avaient chez De Noël et tout ça pour voir qui avait dit quoi sur Lovecraft et tout. Et c'est hallucinant, ces gens. Comment ils ont pu monter le truc. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'était pas intéressant. C'était mal traduit, mais il en restait quand même suffisamment pour que ça ait l'air intéressant.
Ouais, je pense qu'ils le lisaient en version originale, ces gens-là.
Je suis pas sûr, parce que pas tous, en tout cas. Tu avais des critiques qui étaient des critiques. Quand les bouquins paraissaient chez De Noël, tu vois, les chroniques. Des gens comme Berger, évidemment, il l'avait lu en anglais bien avant. Et ça, c'est rigolo. Et si ça a remarché dans l'autre sens, c'est parce que Michaud, qui était à l'époque était étudiant en France, il n'a pas compris, ce mec, il habitait Providence. Il dit, dans toutes les bonnes librairies, même les moins bonnes en France, partout, il y a des bouquins de Lovecraft. Effectivement, c'était édité, c'était réédité. quand la malédiction d'Arkham, le film a été diffusé, il y avait une nouvelle édition avec une jaquette et tout. Alors qu'aux États-Unis, quand le film était sorti, on avait fait croire que c'était un film sur Edgar Poe. Ouais, on parlait surtout pas d'Orcas. Et c'est les Français qu'on fait ça. Et avec le fameux cahier de Lerne dont on parlait aussi. Tout ça, c'est nous, c'est notre boulot. On peut être assez fiers de ça, finalement, de ce qu'on fait.
C'est vrai.
C'est arrivé aux États-Unis, ça a fait boum, mais eux, ils ont repris le truc et puis voilà, ils ont pas attendu après. Alors que je pense qu'aux États-Unis, c'était un auteur complètement oublié, sans intérêt, comme des centaines d'autres, voire comme des milliers d'autres qui bossaient dans les pubs, et puis que deux, trois potes avaient essayé de monter une maison d'édition pour sauver l'essentiel de son œuvre sur deux premiers recueils, et puis après tous les fonds de tiroir sans intérêt sur trois ou quatre autres bouquins supplémentaires, c'était que ça, quoi. Et on en parlait ce matin. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je faisais des fanzines et tout à la fin des années 70, j'ai écrit à Arkham House pour demander un catalogue et pour voir ce qu'ils avaient encore. Ah, il y avait des tas d'éditions originales de Lovecraft qui étaient disponibles. Des bouquins tirés, les premiers à 1050, 1100, 1200, jusqu'à 3000 exemplaires. 20 ans après, ils n'étaient pas épuisés, hein, aux États-Unis, pour croire. Moi, je les ai achetés, j'ai eu toutes les lettres, enfin, après les lettres et tout. Ça veut bien dire que ça n'intéressait pas grand monde. Hein, ouais, parce que des bouquins qui se vendent à 1500, 2000 exemplaires sur 20 ans, je n'appelle pas trop ça des best-sellers. Quoi, hein, c'est pas...
Aux États-Unis.
Et surtout aux États-Unis.
En France.
Et c'est vrai que c'est en France que ça a démarré. Mais ça, c'est pas. Il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas de doute.
Enfin, c'est bizarre parce que moi, j'ai un souvenir personnel. La première fois que j'ai lu Lovecraft, je suis vieux, alors c'est il y a longtemps. Je pense que c'était dans les années 60, quand De Noël a sorti son premier recueil qui était relié, là. Il était relié. Moi, celui que j'ai eu, il était relié. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est bizarre, c'est extraordinaire, ce machin. Ça m'a vraiment frappé, quoi. Ouais, j'ai encore vraiment le souvenir de cette première lecture.
Alors, il ne nous reste pas énormément de temps, puis la chaleur aidant, on a sursuré à l'oreille. Que, ouais, ça va prendre longtemps. Ah, ça va encore 10-15 minutes.
Peut-être prendre des questions.
On n'a pas trop. Ouais, on va passer juste en passant aux questions, ouais. Quand même. On n'a pas tant abordé juste comme ça pour cette non-mythologie qui a amené, qui en a créé une, parce que les gens cherchaient un petit peu ce qu'ils voulaient trouver dans Lovecraft, que tous ces trous à combler ont excité un certain imaginaire. On n'a pas trop parlé de bande dessinée ou de cinéma aussi, tout ce qui est d'audiovisuel en général, et aussi de peinture, enfin ça aussi c'est tout. Par exemple, alors je vais me tourner vers toi Fabrice, la question c'est que je ne suis pas assez connaisseur sur le point que je vais citer pour poser la question très naïvement.
Tu pourrais dire des conneries comme ça.
Tu peux y aller. Non, c'est les premières représentations des couvertures de Lovecraft, ça donnait quoi? Enfin, est-ce que tout de suite il y a eu quelque chose sur cette mythologie qui est sortie point de vue visuel?
Honnêtement, en BD, j'en sais rien.
Un peu au fur et à mesure,
Honnêtement, en BD, j'en sais rien. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent sur Lovecraft dans des collections un peu victoriennes, un peu steampunk et tout. Ils jouent vachement sur ce mode-là. Après, je sais pas du tout historiquement s'il y a eu beaucoup d'adaptations assez tôt. J'en sais rien du tout.
Juste graphiquement, c'est aussi parler un peu de peinture, de couverture de livre.
En fait, graphiquement, ce qui est compliqué, là, typiquement, là, moi, pour faire les peintures sur ce thème-là, ça a été compliqué parce que c'est difficile de trouver des descriptions officielles, entre guillemets. C'est toujours coloré. Alors, on va trouver quelqu'un qui va dire que Toulouse est comme ça, un autre qui va dire qu'il est comme ça. Après, il y a eu des illustrateurs qui ont fait des choses différentes. Donc après, je pense que c'est pas forcément un truc qui se prête très facilement à la BD, principalement, parce que la BD, ça reste quand même un média d'image, encore presque plus que le cinéma, parce que le cinéma, on peut utiliser le son, etc. Oui, on peut ne pas montrer de choses. En BD, ne pas montrer de choses, c'est compliqué. Puis après, si on montre rien du tout en BD, on va se dire qu'on va... C'est très difficile et je pense que c'est un univers. Alors après, comme je dis, je connais pas assez. Je pourrais pas dire s'il y a eu une mouvance là-dessus. Mais je pense que pour le média en lui-même, c'est difficile à alors il y a eu des adaptations, bien sûr, mais pour le média en lui-même, c'est difficile à utiliser. À part après la mode des tentacules et des choses comme ça qui viennent directement de là en fait, tout simplement. Je pourrais pas te répondre.
C'est intéressant puisqu'on retrouve quand même un certain code illustratif Lovecraft. Enfin, on voit ce qu'on a pas en expo, il suffit de voir si travaille Pascal Cassolari. Quand j'ai vu tout de suite ce qui a sorti, j'ai tout de suite eu un œil là-dessus, ne serait-ce que l'affiche qu'on a fait pour cette convention, très simplement.
Il y a eu des choses, mais pas très convaincantes, en fait. Hein.
Au début, ça
au pas début, parce qu'il y a eu, bon, y a, je me souviens de l'album de Breccia qui était sorti aux Humano, bon, ouais, qui est assez intéressant. Et après, aux États-Unis, et quand il y a eu cette espèce de vague des comiques en noir et blanc dans les années, alors c'était quand ça? C'était à la fin des années 80, je pense. Il y a eu des tas de comic books qui mettaient en BD des nouvelles de Lovecraft. Ils étaient tous plus mauvais les uns que les autres. Enfin, ouais, même les couvertures n'étaient pas sauvables à l'époque. Ouais. Et il y a eu une masse de choses, mais c'était pas très intéressant. Et pareil pour l'illustration des pulps, il y a eu peu de choses. Il y a juste eu quelques nouvelles qui ont eu droit à des couvertures plutôt dans les pulps SF que dans Vertels. Quelques illustrations intérieures, des fois plus ou moins intéressantes. Les bouquins après, les poches, il y a eu des bouquins chez Barthes. Il y a eu plusieurs paperbacks, parallèlement aux éditions Arkham, qui avaient des jaquettes plutôt sobres. Enfin, bon. Et c'est pas évident. Je pense que quand on lit Lovecraft, on a dans la tête plein de trucs. Mais le mettre comme ça, je pense que c'est dur.
Non, mais un des trucs qui le fait mieux maintenant, excuse-moi.
Non, vas-y, c'est
C'est Mignola, oui. Avec Hellboy et BBRD à côté, où il y a même maintenant l'enfer sur Terre, etc. etc. Je trouve que c'est une des meilleures reprises de ce genre de mythe, alors qu'il recrée carrément une autre mythologie, qui est la mythologie d'Hellboy. Mais il a clairement tout pris.
L'esthétique.
L'esthétique et voilà, tout.
Tout à fait,
ouais. Mais c'est vrai que c'est rare, en fait, de trouver quelque chose de.
Mais tu cites Mignola, quoi, c'est pas n'importe qui non plus. Il a fallu qu'il y ait quand même des gens dotés d'une histoire, d'une esthétique propre, d'une technique, et des bouffeurs de nouvelles, de textes et tout. Il a fallu que cette génération arrive, quoi. Ces gens qui sont les pionniers du multimédia, si on peut dire, hein, ces gens qui ont commencé à s'intéresser à tout ça. Et dont les meilleurs, comme Mike Mignola, font effectivement des trucs super.
Ah oui,
c'est vrai.
Mais il y a un truc sur la difficulté d'illustrer Lovecraft qui est clair, c'est qu'en gros, il n'y a que Cthulhu qui est bien décrit, qui est super emblématique. Je pense qu'il ne l'a pas fait du tout exprès, mais le coup de n'en avoir représenté qu'une et qu'il soit aussi facile à retenir, avec sa gueule de poulpe et ses ailes membraneuses, c'est vraiment une icône, Cthulhu. Et voilà, donc Cthulhu, c'est facile, tout le monde peut le faire, un enfant peut le faire quasiment, et après.
Oui, bah voilà,
après, et après, si tu te bases juste sur les textes de Lovecraft, c'est vachement difficile. Il y en a quelques autres.
C'est un exercice compliqué, je suis d'accord.
Et c'est super compliqué. Il faut des artistes qui ont des vraies visions et qui s'emparent du truc et qui développent autre chose, en fait, je pense.
Là où je suis arrivé, dans les recherches pour essayer de faire quelques illustrations, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de description, je suis parti sur le thème. Par exemple, pour Dagon, c'est un homme poisson. Voilà, je suis parti comme ça. Et à un moment donné, on est obligé de prendre une décision et c'est ce qui fait que ça multiplie les versions, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de prendre une décision. On prend pas juste la description, on fait pas tous pareil.
Là, je vais y reprêcher un petit peu pour ma paroisse, mais l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, a produit des bouquins d'illustration, des artbooks, dans les années 80, qui étaient illustrés par un gars qui s'appelle Tom Sullivan, me semble-t-il, qui a entre autres choses après fait les visuels d'Evil Dead, si ça dit des choses certains. Là, en ce moment, Sans Détour est en train de travailler sur la 7e édition et refait donc les artbooks et les a fait faire par des illustrateurs nouveaux. Là, pour le coup, les noms m'échappent. Et c'est complètement différent. Les mêmes bestioles n'ont plus du tout la même tronche. Et c'est intéressant de les voir côte à côte, justement. Mmh. Donc, ce sera un plaisir réservé aux collectionneurs qui ont gardé leurs artbooks des années 80. Mais il y a vraiment des perceptions et des sensibilités différentes.
Le mot que tu as utilisé, icône, pour Cthulhu, me semble très bien choisi. D'ailleurs, c'est Marilyn par Warren.
Tout à fait. Il suffit de compter les t-shirts.
Ça, cette passe-là.
Ah ouais. Levez-vous, parce qu'on voit qui a Cthulhu, qui a Cthulhu sur lui. Hein, pas grand monde.
Il dort.
Ah non, il y a des Deep Ones, ouais.
Ça, c'est très intéressant. Peut-être qu'on finira là-dessus, j'en sais rien. Mais c'est depuis à peu près 1980 jusqu'à maintenant, c'est devenu une espèce d'icône pop où il y a des gens qui font des Kickstarter pour des chaussons à tentacules ou des chamallows à tentacules ou tout ce que vous voulez à tentacules. Et bon, ça. Les générations d'avant, donc ça paraît bizarre. Mais...
Après, la tentacule, globalement, avant Cthulhu, il y avait aussi les mythes du Kraken et des trucs comme ça. Ça a toujours été quelque chose qui
avait là, c'est explicitement vendu avec.
Non, mais tu l'avais pas sur la tête.
Non, voilà.
Tu n'avais pas ton Kraken sur la tête.
Tu n'avais pas ton Kraken, ça c'est sûr.
Mais donc, c'est quelque chose qui a toujours. sais pas pourquoi, mais qui a toujours un peu excité les gens. Ouais. Donc,
bah, Cthulhu, il a des ailes membraneuses, les chauves-souris, ça a toujours un peu inquiété les gens. Et puis, pareil, voilà. Paul Kraken et la gueule de poulpe, quoi.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, enfin, après, je pense pas plus loin, si vous avez une autre question, je sais pas si c'est la fin, mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport vu que j'ai pas connu cette époque des années 80, est-ce qu'on s'amuse plus avec le mythe qu'autrefois, ou est-ce qu'il y a une. C'est devenu justement ce côté plus pop et genre on se marre avec Cthulhu, ou il y avait un peu déjà cette ambiance des années 80.
J'ai lu des nouvelles d'horreur où il y a des Cthulhu en peluche.
C'est assez horrible.
On peut savoir s'il y a une différence de génération, s'il est vraiment passé dans ce côté-là, c'est mon copain de Toulouse.
Oui, enfin, sauf que le plus en plus, c'est pas forcément ça le plus sympathique de l'histoire. Mais bon. Oui, il y a effectivement un côté où c'est devenu une espèce de.
C'est énorme là, sur la
question. Moi, les premiers Cthulhu en plus, je me souviens, c'était dans les années 90. Ça paraissait très étrange à tout le monde aujourd'hui. Bon, bah, oui, il y en a, on en trouve assez facilement dans des boutiques ou sur Internet.
Et ça plaît à tout le monde qui ne sont pas forcément fans de littérature, encore moins d'horreur, etc. Enfin, c'est vraiment ouais, c'est une icône. Et en fait, finalement, les gens trouvent ça mignon, joli. Voilà.
C'est un peu un truc de grand malade, quand même, il faut reconnaître. Quoi.
Ouais. Bah, je sais pas.
Se balader avec un sac à dos, tu lui.
C'est un signe de reconnaissance, tout ça.
Je dis ça juste pour être désolé.
T'as raison. Qu'il y ait que les petits-enfants, je pense que les
écoute, j'en ai filé un certain nombre de mes neveux, filleuls et autres, et
pervers.
ils ont tous trippé dessus. Hein.
Et ben, je vous laisse la parole encore pour 5 petites minutes avant de pouvoir se rafraîchir avec une bière ou une bouteille d'eau selon votre tendance.
Budget.
T'en prie.
Ouais, donc juste. Aussi par la mythologie de Lovecraft, comme il a fait des entités qui sont en fait pas liées ni par l'espace ni par le temps, peut-être aussi un aspect intéressant c'est qu'on peut les retrouver que ce soit l'Antiquité, le Moyen-Âge, enfin au départ c'est surtout le début du XXe siècle, mais après je manque le jeu de rôle, donc en fait on peut voir différentes époques humaines, ouais. En fait, quelque part, c'est pas lié vraiment à une époque.
Ouais, dans les jeux de rôle, c'est comme ça.
Dans les jeux de rôle,
oui, ça, c'est une dimension intéressante.
Bah, c'est une dimension que tu peux explorer dans le jeu de rôle, sur tous les types de médias.
Bien sûr, ouais.
Et ça répond à ce qu'on disait tout à l'heure, l'universalité du mythe derrière. C'est-à-dire que il dit que derrière tout, il y a le même mythe.
Ça, ouais,
alors, tu peux l'utiliser comme tu veux. Quoi.
Ça pose après des problèmes de distorsion, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu finis par plus l'utiliser comme il est conçu, c'est-à-dire pour jouer de l'horreur. Parce que c'est quand même un thème qu'on n'a pas. Pas tellement abordé, mais qui est sous-jacent à tout ce qui a écrit Lovecraft, c'est l'horreur. Effectivement, tu peux faire du Cthulhu, Empire romain ou ce que tu veux, mais ce sera de la soirée dans la sorcellerie pour comprendre.
Oui, voilà. Ça
être de thématique. Hein.
Pour que ça reste de l'horreur, faut que ce soit.
C'est difficile de garder justement le.
C'est plus la même ambiance, ça, c'est sûr.
Pour que ce soit de l'horreur, faut que ce soit aujourd'hui. Sur... Ouais.
C'est mieux si c'est sur des thématiques familières. Alors, un siècle, voilà. Sur un siècle de battement, ça marche.
Ouais. C'est l'autre icône, sans jeu de mots, de Lovecraft. Que du bien, Lovecraft lui-même a écrit qu'il espérait qu'un jour quelqu'un écrive le Necronomicon. Il n'a pas vécu pour le voir, mais...
Enfin, il a quand même écrit l'histoire du
Necronomicon. Ouais, j'ai la citation là-dedans, je pourrais la retrouver si vous voulez. Mais, et il a dit aussi qu'il serait déçu, mais il appelait de ses voeux que quelqu'un le fasse. Non, je trouve que c'est génial. Lovecraft a reçu des lettres lui disant où est-ce qu'on peut le trouver. Il y a des gens qui ont cru tout de suite que ce bouquin existait.
Il y a des gens qui l'ont inséré à l'époque où c'était encore des systèmes de bibliothèque avec des classeurs et des cartes qui ont fait des fausses fiches de bibliothèque et qui les ont insérées dans des... Mais,
il y avait deux Providence. Deux fiches.
Oh, que du bien. Non, après, les différentes éditions elles-mêmes du Necronomicon, on les aime, on les aime pas, c'est même à la limite pas la question, je dirais. Je trouve que c'est génial que quand. Enfin, pour un auteur, c'est génial. Tu dis qu'un bouquin existe, puis après, des gens l'écrivent. Enfin, c'est fabuleux, quoi.
Les gens jouent avec ton univers.
Les gens jouent
dans ton bac à sable.
C'est
cool, quoi.
Ouais. C'est très rigolo parce que c'est quand même. Tout au moins dans notre civilisation à nous, c'est le support de la culture. Donc être écrivain et puis manier comme ça des choses qu'on invente et puis on s'appuie sur des bouquins, qu'on invente en plus le bouquin,
c'est juste normal de faire ça, mais sûrement en même temps, c'est assez excitant. Voilà. Moi, par exemple, je me souviens dans mes bouquins, j'avais besoin à un moment qu'un personnage voit dans la vitrine d'une librairie un bouquin bien particulier qui avait été réédité avec des gravures, que ce mec courait après les gravures et tout. Donc j'avais besoin que ce livre existe pour que le personnage le voit. Et ce que j'ai fait, en tant que critique, j'ai fait une critique de ce bouquin, j'ai envoyé une revue, et j'ai publié. Donc, et après, dans mon texte, je disais que le mec avait reçu la revue, il avait lu l'article de Francis Valéry sur ce bouquin-là, il avait vite été voir. Effectivement, il avait trouvé le bouquin, Zinimari. Donc c'est complètement du post-moderne. On brouille tout, on fait tout vrai, tout faux à la fois. Et c'est quoi? C'est le même principe de dire je l'ai lu dans l'Economicon. Sauf que moi, je vais encore plus loin, c'est-à-dire que je trompe les éditeurs, les rédacteurs en chef des revues pour lesquelles je collabore, en leur faisant des fausses critiques, enfin des vraies critiques de bouquins qui n'existent pas, parce que j'ai juste besoin que ce bouquin se mette à exister, parce que j'en ai besoin ensuite dans ma fiction. Mais je suis pas seul à faire ça, certainement, mais c'est rigolo, c'est comme Borges qui fait des critiques de bouquins qui n'existent pas aussi. Enfin, c'est vrai que le Necronomicon n'est pas étranger, je pense à ça. Alors peut-être que des gens l'ont fait avant, je sais pas, j'ai pas tout lu, mais en tout cas, j'ai pas trouvé, moi, d'exemple dans la littérature populaire, en tout cas européenne, d'écrivains qui avaient fait ça avant Lovecraft. Et alors que c'est, pour moi, c'est génial, quoi. C'est vraiment un ressort. Alors ça, c'est extraordinaire.
Dans une moindre mesure, d'un manuscrit trouvé à Saragosse, qui a un
oui, c'est juste.
Qui a un
c'est
peu de dimension comme ça.
On revient sur ce qu'on disait sur le fait d'ancrer le mythe ou l'imaginaire dans le réel par le biais de l'érudition ou effectivement du jeu littéraire, de la tromperie, de la fiction. Mais c'est... Ça reste aussi des moyens d'ancrer ce qu'on raconte.
Non, parce qu'il y a les livres des religions aussi. Les gens, ils ont été imprégnés par cette idée qu'un livre peut produire quelque chose de phénoménal comme une religion. C'est vrai.
Ah, espérons que personne ne va prendre Lovecraft au premier degré et faire une vraie religion et tout. Ça aurait un petit goût quand même.
Ça existe, hein.
Oui, je sais que ça a eu existé des temps peu satanistes.
Ça existe encore, mais encore.
Il y avait une autre question, je crois.
Une dernière question.
Allez, prends les deux.
Je voulais savoir, selon vous, est-ce qu'on peut dire que le mythe, le non-mythe, évolue encore aujourd'hui, et si oui, par qui et par quoi?
Oui.
Alors, moi, j'ai tendance à penser que oui. Enfin, il y a une réalité concrète qui est qu'il y a encore des tonnes de gens et des tonnes d'anthologies lovecraftiennes qui sortent chaque année aux États-Unis. Après, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, le jeu littéraire avec des monstres qui ressemblent à des mauvais tirages au Scrabble et des livres écrits avant l'invention de l'écriture. Il y a encore des gens qui jouent à ça, mais ils sont de moins en moins nombreux, c'est de moins en moins drôle. Après, il y a une tentative qui vient pas mal d'un gars qui s'appelle S.T. Joshi, qui est de renouveler la fiction lovecraftienne en revenant sur les grands thèmes de l'horreur cosmique, mais en prenant ses distances avec justement la quincaillerie, les trucs un peu usés, les monstres improbables, etc. Il y en a vraiment beaucoup, et là pour le coup, j'en ai pas lu suffisamment pour dire que c'est une bonne ou une mauvaise approche. Mais il suffit, si on lit l'anglais, d'aller sur Amazon et de taper S.T. Joshi, et on trouve des tonnes d'anthologies qui permettent de se faire une idée.
Moi, je rajouterais juste une chose, excusez-moi.
Il y en a des Joshi.
Je pense que par exemple, je l'ai cité tout à l'heure, un auteur comme Graham Masterton, il est toujours dans le mythe, mais il l'a fait évoluer vraiment à sa manière. Je ne connais pas tout ce qui est écrit dans le domaine, mais cet auteur-là, qui est un auteur d'horreur, là, vous pouvez reprendre ses livres en plus ancien, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ses œuvres, mais voilà. Et puis il y a le cinéma aussi, mais ça on en parlera demain. Le cinéma, il a repris un certain nombre de thèmes de Lovecraft. Il n'y a même plus de référence à Lovecraft pour beaucoup de films, mais c'est quand même son héritage et il y a une évolution certaine dans ce domaine, quoi.
Dernier mot sur la
question. Bon, je sais pas, on peut peut-être prendre la dernière question. Il y a une dernière main levée, vite fait.
Dernière question.
Alors, peut-être, moi, par rapport un peu à tout à l'heure, j'ai presque envie de parler de publicité virale par rapport à mon livre. quand il écrivait, n'était pour reprendre une autre personne, c'était un anonyme qui a pu être tout de suite repris par plein de gens. Il y a plein de cerveaux, etc. Mais donc, à quel degré, en fait, Lovecraft est Lovecraft, voilà, c'est aussi. Ah, c'est pour ça que ça peut se rejoindre aux religions, tout ça.
Ah ouais.
Je pense qu'il y a aussi une démarche, alors, chez les auteurs, chez Lovecraft, elle est peut-être pas totalement pertinent ce que je vais dire à ce propos, mais il y a la volonté chez un certain nombre de gens qui écrivent de considérer que la part critique théorique, disons la partie théorique de leur travail, quand on fait des critiques de livres ou quand on fait des essais, des choses comme ça, participe au même titre que la partie romanesque, quand on écrit des nouvelles, des romans, etc., qu'on marche sur deux pieds et que ça, c'est deux aspects d'une œuvre globale. C'est la même chose. Et on refuse, enfin moi je suis comme ça en tout cas, en tant qu'écrivain, moi je refuse de faire une séparation entre mes bouquins pour les gamins, mes bouquins pour les adultes, mes bouquins fantastiques, mes bouquins SF, mes bouquins de littérature d'avant-garde, enfin, et même mes critiques et mes essais sur les séries télé ou la BD, c'est la même démarche. Et chez Lovecraft, il y a j'ai senti un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a son œuvre littéraire et il y a son œuvre romanesque, on va dire. Parce que, et puis, il y a ces œuvres qui ne prétendent pas être de la littérature, mais qui le sont, comme ses lettres. Il y a ce qu'il invente, et puis il y a sa correspondance avec ses potes. Et tout. Ouais. Et ça, c'est du domaine de la critique, quelque part. C'est du domaine du réalisme. Il ne fait pas œuvre d'imagination dans son courrier. C'est comme des essais, voilà. Et c'est là-dedans qui donne des pistes aussi, et chez lui on retrouve cette volonté de ne pas faire la différence. Lui, il la fait pas. Il fait des poésies, après il fait plein de, il écrit des milliers, des milliers, des milliers de lettres, puis il écrit des textes en assez petite quantité d'ailleurs. Hein. C'est pas l'œuvre complète de Lovecraft, l'œuvre littéraire, c'est petit, hein. C'est quoi, 40-50 nouvelles, dont deux ou trois un peu plus longues que les autres, mais c'est très peu de choses par rapport à ce qu'étaient les standards à l'époque des pulpsters, les gens qui bossaient dans les pulps et qui écrivaient, mais ils faisaient ça en deux ans, ils auraient fait ça, quoi. Lui, il a mis. Il y a ça chez lui qui me plaît. C'est-à-dire, ses lettres sont aussi importantes, voire peut-être plus, que pas mal de ses nouvelles.
Il y a un essai qui est important, si vous vous intéressez à Lovecraft, c'est Épouvante et Chantage dans la littérature, bien sûr. Il pose justement. Il fait le panorama de tout ce qui a été écrit avant lui, mais il pose aussi ce que c'est pour lui un bon récit d'horreur, en creux, notamment en descendant ses petits camarades. Et on voit effectivement très nettement ce qu'il a en tête et ce qu'il veut. Et c'est pas, il écrit pas juste parce que il est enfermé chez lui et qu'il veut écrire et qu'il écrit sous la dictée. Au contraire, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense et qui sait où il veut aller.
Je pense qu'il a un vrai projet. À la limite, c'est ce que Rimbaud disait quand il parlait de faire de sa vie une œuvre d'art. C'est-à-dire, il n'y a pas toi ta vie, puis ton œuvre. Tu fais de ta vie une œuvre d'art. Lovecraft a fait de sa vie une œuvre d'art.
On a presque l'impression qu'il y croit, en fait. Parce que, comme il en parle aussi dans ses lettres, c'est juste. Ouais, on a l'impression qu'il est une espèce qui se sent être le messager, en fait, d'une certaine façon.
On a toujours dit le reclus de Providence, on a voulu toujours le faire passer pour être isolé, coupé du monde réel, qui est complètement fou.
C'est son côté un peu pété de la caisse aussi. C'est-à-dire, quand il dit, quand chez lui, il y a des milliers de bouquins d'ésotérisme sur les sujets les plus tordus, puis qu'il dit, oh non, mais ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je les aime, c'est de la doc. Attends, tu te fous de la gueule, Lyon, tu en as des murs entiers, et tu dis que ça ne t'intéresse pas vraiment, que c'est juste de la doc. Il y a ce côté où tu sens, j'exagère un peu, mais il y a ce côté. Où il y a un peu ce mépris pour ce type de livre, mais il s'en est rempli chez lui. Alors qu'est-ce qu'ils font là, tous ces livres? Il y a ce côté un peu que peut-être qu'il n'assume pas tout Lovecraft, tu vois, et peut-être qu'il a eu un coming out à faire sur ses vraies croyances, sur l'aspect spirituel, religieux peut-être, mais au moins spirituel, sur tout cet aspect ésotérique. Où il y a la critique, la critique a tendance à dire non, c'est un mec scientifique, un mec un peu hyper sérieux, il croyait pas du tout à ces machins-là, il faisait de la littérature juste comme ça. Il mettait des aliens, des créatures, des machins, parce que c'est ce qu'ils vendaient à l'époque. Et tout. Moi, je ne suis pas certain. Mais il croyait, ce mec. Il entendait. Il était téléguidé, ça lui tombait. Et puis, c'était le transmetteur de quelque chose. Je pense qu'il Peut-être qu'il y a une partie de lui, il croyait qu'il jouait ce rôle-là.
Donc enfin, il irait jusqu'à dire que Cthulhu existe alors.
Ah, écoute, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Voilà,
Cthulhu nous fait le même coup que la
trilogie. Ah, très bon.
Ouais, on va lever sur ce doute en effet. La salle va être prise derrière pour la murder party.